L'heure du journal avec vous, Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Imran Khan s'autoproclame vainqueur des élections législatives au Pakistan alors que les résultats définitifs ne sont pas connus. Mathieu Laurent nous aidera à nous y retrouver sur l'échiquier politique du cinquième pays le plus peuplé de la planète. L'accord commercial Europe-USA signé hier entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker suscite espoir et questions, beaucoup de questions. En attendant d'en connaître les tenants et aboutissants, certains pays européens, comme la France, évitent de céder à l'euphorie. Nous retrouverons Quentin Dickinson à Bruxelles. Alexandre Benalla livre sa vérité dans un entretien accordé au Monde. Il ne se prive pas au passage de contredire des témoignages recueillis lors des auditions des commissions parlementaires. Celle du Sénat a entendu justement ce matin Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, laissant sur leur faim ses interlocuteurs. Lucas Scaltriti était là pour recueillir leurs réactions. La SNCF commande finalement 100 rames TGV à Alstom. 4000 emplois seraient garantis sur plusieurs années. Les trains seront-ils tous construits en France? La question est posée, nous dira Hugo Charpentier. Lendemain d'élections législatives au Pakistan, je vous le disais, c'est le cinquième pays le plus peuplé de la planète. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant, en principe, demain. Ce qui n'empêche pas Imran Khan de revendiquer la victoire de son parti et son adversaire, Shahbaz Sharif, chef du parti au pouvoir, de crier, lui, à la fraude massive. Les projections officieuses, bien sûr, donnent Imran Khan vainqueur avec au moins 119 sièges de députés, loin devant son rival, Shahbaz Sharif, et encore plus loin devant le parti du clan Bhutto, en précisant qu'une majorité de 137 sièges est nécessaire à la formation d'un gouvernement. Il semble, en tout cas à l'heure qu'il est, Mathieu Laurent, que la route du pouvoir est bien ouverte devant Imran Khan.
Oui, mais il y aura des plaintes, de ces plaintes que la commission électorale devra traiter. Imran Khan, d'ailleurs, en 2013, en avait abusé de ses recours en contestant la validité de la victoire de Nawaz Sharif, le lion du Punjab incarcéré au début du mois, pour ne pas insulter l'avenir de son parti, le parti de la Ligue musulmane, vous l'avez dit, conduit par son frère Shahbaz. C'est troisième élection générale sans coup d'état militaire, une première. Les perdants, et c'est là une constante, n'oublie pas pour autant d'accuser les militaires d'immixtion dans le scrutin. Eh bien, ces élections risquent de porter au pouvoir une figure populaire au sein des classes moyennes et d'offrir par là même une alternative à la jeunesse d'un pays dont la moyenne d'âge culmine à 25 ans. Ces primo-votants dont nous parle Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS.
À chaque nouvelle élection générale, il y a un gros contingent de primo-votants et les réseaux sociaux, qui sont quand même un paramètre nouveau dans cette campagne de 2018, l'auront aidé plus que ne le pensaient les observateurs, qui s'attendaient quand même à un combat un peu plus serré entre ceux qui ont gouverné depuis longtemps et ceux qui, pour le moment, n'ont gouverné qu'une des quatre grandes provinces pakistanaises. Donc Imran Khan est maintenant au pied du mur. Il va falloir qu'il satisfasse les électeurs qui ont voté pour lui.
Assurer leur sécurité, veiller sur leur santé, leur éducation, raffermir une monnaie fragile en se tournant vers le FMI. La croissance qui n'est pas mauvaise ne peut à elle seule propulser le Pakistan sur les sentiers vertueux d'un renouveau tel que l'a fait miroiter Imran Khan, promoteur d'un simili New Deal.
Merci Mathieu Laurent. Et donc, résultat prévu en principe
demain après-demain, selon les dernières projections et commentaires.
Merci encore. Beaucoup de questions se posent au lendemain de l'accord commercial signé hier à Washington entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Accord qui met fin, semble-t-il, aux menaces de nouvelles taxations douanières sur les produits européens. Aucun nouveau tarif douanier ne sera par exemple imposé sur les importations de voitures européennes aux États-Unis, ce qui satisfait au premier plan Berlin. Après le changement de cap spectaculaire opéré par le président américain, on est loin toutefois au sein de l'Union de sauter unanimement de joie. En ligne de Bruxelles, Quentin Dickinson.
Tout le monde n'a pas encore eu le temps d'analyser à tête reposée le contenu des accords de principe actés hier soir à Washington, d'autant qu'on n'en connaît ni les dates, ni les quantités, ni les contreparties. Cependant, on ne s'étonnera pas de la satisfaction de l'Allemagne de voir s'éloigner le spectre d'une surtaxe américaine sur les importations de voitures et de pièces détachées pour l'automobile en provenance de l'UE, marché dominé par les berlines de haut de gamme d'outre-Rhin. Chantre habituel du libéralisme économique, le Premier ministre néerlandais applaudit à cette pause dans l'escalade vers une guerre commerciale transatlantique. Quant au président de la Banque Centrale Européenne, qui s'est aventuré sur un terrain qui n'est pas directement le sien, il rappelle, ce dont personne ne doutait, que le protectionnisme n'est jamais conseillable. Seul bémol au satisfecit général, le ministre français de l'économie et des finances exige des précisions sur les accords, rejette toute idée d'une vaste zone transatlantique de libre-échange et entend exclure le secteur agricole de toute entente avec les Américains. À dire vrai, la réaction française agace quelque peu ici. C'est comme si vous reprochiez au pompier qui vient d'éteindre l'incendie et de sauver le bâtiment qu'il y a causé des dégâts des eaux, disait cet après-midi un haut fonctionnaire européen.
Quentin Nicholson à Bruxelles. 600 migrants sont parvenus ce matin à franchir la barrière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta, le passage le plus massif depuis février 2017. D'après la garde civile espagnole, cela s'est accompagné de violences, notamment de jets de chaux vives sur les agents dont certains souffrent de brûlures. La clôture franchie, hérissée de barbelés, est haute de plus de 6 mètres. Par ailleurs, le nombre de migrants arrivés par mer en Espagne depuis janvier dernier dépasse désormais ceux arrivés en Italie, 18 000. Sur les 50 000 migrants qui ont traversé au total la Méditerranée depuis le début de l'année, 1400 sont morts ou portés disparus. Un des piliers de la Macronie entendu ce matin au Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla, bien sûr. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, que certains considèrent comme le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron, a répondu pendant plus de 2h30 aux questions des sénateurs. Une audition qui a suscité plus de frustration qu'autre chose chez les membres de la commission, comme a pu le constater Luca Scaltritti à l'issue de ce nouveau grand oral au Palais du Luxembourg.
Comme lors de l'audition du ministre de l'Intérieur, le président de la commission d'enquête ne se gêne pas pour couper la parole d'Alexis Kohler. L'auditionné répond à côté, selon Philippe Bas, qui ne se laisse pas berner. Après les 2h30 de questions, il se refuse de commenter les informations données par le secrétaire général de l'Élysée. Pourtant, il n'est pas pleinement persuadé qu'Alexandre Benalla n'était pas le garde du corps du président.
Comment expliquer que le préfet de police ait attribué le port d'armes en mentionnant expressément les fonctions de sécurité de M. Benalla? Donc je crois que oui, il y a souvent des réponses qui nous sont faites, je dirais, au plus près de la vérité, sans être totalement la vérité.
Et ce n'est pas le seul point qui pose problème. Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de la commission, pointe le fait qu'Alexandre Benalla, après ses 15 jours de mise à pied, travaillait encore pour l'Élysée, difficile donc de mesurer sa prétendue rétrogradation.
Il a été présent pour le 14 juillet, dans la tribune officielle. Il a été présent pour accueillir les Bleus, en particulier à Roissy, où il y a eu quelques discussions avec la gendarmerie. Il a été présent au Panthéon, lors de l'arrivée des cendres de Simone Veil et Antoine Veil au Panthéon. Il reste un certain nombre de contradictions et d'incertitudes.
Et pour tenter de les lever, les auditions se poursuivent au Sénat. Alexandre Benalla ne sera pas entendu afin de ne pas entraver la justice. Mais Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, sera lui auditionné mardi.
Oui, ça a été annoncé et confirmé tout à l'heure. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et délégué général de La République En Marche entendu mardi. Il sera précédé d'ailleurs la veille, lundi, par le colonel Lavergne, le chef du groupe de sécurité de la présidence de la République. Pendant ce temps, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, fond comme neige au soleil. Le co-rapporteur des Républicains, Guillaume Larrivé, a claqué à son tour la porte, comme l'avait fait hier Nicolas Dupont-Aignan. Et Guillaume Larrivé est sévère. Je pense, dit-il, qu'instruction a été donnée aux députés du groupe En Marche de bâcler la préparation d'un vrai faux rapport. Fin de citation. Autre défection, celle des députés de la France insoumise. Quant à Alexandre Benalla, il donne sa version de l'affaire qui porte son nom. Un long entretien accordé au Monde, dans lequel il affirme ne pas avoir demandé à être observateur le 1er mai. Il reconnaît avoir fait, selon ses termes, une grosse bêtise. Mais en voulant bien faire, comme un citoyen qui intervient et qui appréhende un délinquant, récusant au passage le terme de tabassage. Pour Fabrice Lhomme, qui est co-auteur de cette première interview, les propos d'Alexandre Benalla permettent toutefois d'ouvrir quelques brèches intéressantes.
Je trouve qu'il a des réponses intéressantes. Le fait d'être déguisé en policier, il faut savoir que lorsqu'il y a des observateurs qui sont invités, et ça arrive régulièrement, des chercheurs, des magistrats, des journalistes, hein, pour être protégés, on peut remettre à ces observateurs des casques ou du matériel. Ça arrive. Donc c'est possible, on va dire, c'est techniquement possible. Ensuite, sur les conditions de son intervention, il dit, là moi j'agis parce que je vois des violences en train d'être commises, et j'agis comme un citoyen, comme m'en donne le droit le code pénal avec l'article 73 qui dit que quand on a connaissance d'un délit, on peut intervenir. Alors, ça peut se discuter judiciairement, mais en tout cas, c'est un argument qu'on peut entendre. Et puis, enfin, il évoque le fait que c'est pas lui qui a été demandeur d'assister à tout ça. Il explique que
on a voulu lui proposer d'être un observateur ce jour-là.
Exactement. On a des échanges de SMS entre M. Benalla et M. Simonin, qui était donc, pour résumer, le chef d'état-major de la direction de l'ordre public à la préfecture de police, et dans lesquels on voit que c'est M. Simonin qui vient vers M. Benalla pour lui dire « Je te propose de participer à la manifestation du 1er mai ». C'est donc bien la préfecture de police qui est à l'initiative, qui propose et du début à la fin et qui lui dit ensuite « Nous te donnerons le nom de ton correspondant », etc.
Donc des versions qui continuent à différer. Fabrice Lhomme, le co-auteur de cette interview au Monde, était au micro de Gabriel Pereira. Le droit du sol écorné en France. Les députés ont voté aujourd'hui le principe d'une limitation de ce droit à Mayotte, conséquence de la très forte immigration clandestine en provenance des Comores. Désormais, il faudra pour les enfants nés à Mayotte que l'un des parents ait été présent sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Pour la gauche, cette disposition casse l'unicité de la République et ouvre une boîte de Pandore. Éric Ciotti, des Républicains, propose lui de généraliser ce principe à l'ensemble du territoire national. La SNCF investit pour le TGV du futur 3 milliards d'euros pour la commande à Alstom de 100 rames de TGV 5e génération. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, l'a annoncé officiellement à la mi-journée. Des trains censés être plus confortables, plus connectés, mais aussi plus écologiques. Cette commande représente une sacrée bouffée d'oxygène pour Alstom et ses 9000 salariés. Hugo Charpentier.
Oui, c'est le patron de la SNCF qui, en premier, a salué, je cite, une prouesse industrielle. Selon Guillaume Pépi, cette commande devrait permettre de pérenniser 4000 emplois pendant 10 ans. Évidemment, pour les syndicats d'Alstom, c'est une très bonne nouvelle compte tenu notamment du contexte industriel morose. Philippe Pillot est délégué force ouvrière d'Alstom et selon lui, 10 des 12 sites français vont pouvoir participer à la fabrication de ce TGV du futur.
Il y a au moins 2 sites constructeurs qui sont impactés, c'est Belfort et La Rochelle. Il y a aussi tous les sites composants qui fournissent les éléments. Et cette commande est forcément la bienvenue, et même si elle arrive un peu tard. Puisque normalement, c'était des premières livraisons pour 2020. Et donc là, c'est une fabrication qui démarrera en 2023 en série.
Et ce retard n'est pas sans conséquence, puisque d'ici à ce que la fabrication des nouvelles rames soit lancée en usine, une partie des 480 salariés du site de Belfort, par exemple, risque d'être mise au chômage partiel. Mais ce qui inquiète le plus les syndicats, c'est évidemment le mariage imminent entre l'allemand Siemens et Alstom. Le projet de fusion doit être finalisé l'an prochain. Et du coup, selon Philippe Pillot, rien ne garantit qu'à l'avenir, les prochaines commandes soient confiées aux usines françaises.
Au début de l'année prochaine, on aura des décisions qui seront prises par Alstom et Siemens pour répondre aux futurs appels d'offres. C'est ce que ça sera avec du produit Alstom ou du produit Siemens. Ça, on n'en est encore pas là. Et donc, bien sûr, la manière dont on répondra aux appels d'offres, ça donnera de la charge aux uns ou aux autres, mais pas aux deux.
Une inquiétude d'autant plus forte que dans la future fusion, c'est bien Siemens qui aura la main, avec, pour le géant allemand, le droit de nommer 6 des 11 membres qui composeront le futur conseil d'administration.
Et première mise en circulation de ces TGV du futur en 2023, en principe. Hugo Charpentier, merci. Jamais, jamais les prisons françaises n'avaient abrité autant de détenus, 70 710, c'était le 1er juillet dernier. La densité carcérale dépasse les 142% dans notre pays. C'est l'une des pires moyennes d'Europe. Une étude clinique stoppée net avant d'arriver à son terme aux Pays-Bas. Elle consistait à administrer du Viagra à des femmes enceintes de fœtus souffrant de graves retards de croissance. Étude menée par l'hôpital universitaire d'Amsterdam. Il s'agissait de tenter d'améliorer la santé des bébés. Espoir ô combien déçu, Tara Schlegel, 11 nouveau-nés sont morts.
L'étude était menée depuis 2015 sur 2 groupes d'environ 90 femmes dont les fœtus avaient le plus grand mal à se développer. En raison d'un placenta incapable de fournir assez d'oxygène et de nutriments, ces bébés étaient condamnés à naître prématurés, pesant un poids très faible. Ils avaient très peu de chances de survie, disent les spécialistes. Il n'empêche que personne ne prévoyait des résultats aussi dramatiques, d'autant que des essais similaires avaient déjà été menés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne, sans déboucher sur les mêmes conclusions. En Angleterre, de 2014 à 2016, 135 femmes se sont vues administrer pour moitié un générique du Viagra et pour l'autre un placebo. L'espoir, comme aux Pays-Bas, était de voir le médicament vasodilatateur, favoriser l'afflux sanguin dans le placenta et stimuler la croissance des fœtus sous-nutris. Espoir déçu, l'étude britannique publiée dans The Lancet il y a quelques mois a conclu que le Viagra n'avait pas permis de prolonger la grossesse ni de faire grossir les bébés in utero. Le médicament était donc considéré comme inutile mais pas comme dangereux. Aux Pays-Bas, en revanche, il y a bien eu des complications. Dans le groupe des 93 femmes enceintes ayant pris le générique du Viagra, 11 bébés ont développé une hypertension pulmonaire après leur naissance, hypertension attribuée pour l'instant à la petite pilule bleue. Des recherches évidemment sont en cours pour bien comprendre. Ces nouveau-nés n'ont pas pu être sauvés.
Merci Tara Schlegel. Facebook a plongé à la bourse de New York, une baisse de plus de 18% de son titre, $177 aujourd'hui contre 217 hier. Les résultats du groupe sont pourtant jugés insuffisants alors que le nombre d'utilisateurs a grimpé de 11% en un an pour s'établir à 2,23 milliards tout de même et un chiffre d'affaires qui a progressé de 42% sur la même période. Alors une question se pose, que faut-il, mais que faut-il donc pour rassurer les investisseurs? La tendance météo, 18 départements toujours placés en alerte orange canicule. Le temps demain restera très très chaud à l'est, notamment il deviendra orageux sur l'ouest, minimal entre 15 et 23 degrés, maximal jusqu'à 37 degrés. Fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera le journal de 22h présenté par Clarence Rodriguez. Excellente soirée à tous. We'll be right back.